Alors, notre paracha de cette semaine, tout en fait pas celle de cette semaine, celle de la semaine passée, et donc la paracha Shoftim, elle se situe entre deux parachotes, la première qui est la paracha Ré, qui aborde un certain nombre de questions pratiques dans le service du culte, et notamment comment finalement associer au maximum le peuple d'Israël, vivre cette unité, vivre ensemble dans le cadre de la célébration des fêtes. Et puis on a la paracha qui suit, qui aborde aussi d'autres questions très concrètes, très pratiques, relatives à la vie de tous les jours des Israélites. Alors on se trouve dans le livre du Deutéronome, Dvarim, texte rédigé par Moshe, donc Moïse, à la fin des pérégrinations du peuple dans le désert et à quelques encablures peut-être seulement du pays de Canaan qui sera conquis bientôt par Josué, successeur de Moshe à la tête du peuple. Alors jusque-là, Moshe avait été le chef, le juge suprême, le modèle par excellence, l'arbitre des différends que pouvait connaître tout le peuple. Alors souvenez-vous peut-être, à un moment donné, quand même, son beau-père, Yétro, était venu à sa rencontre et l'avait fort bien conseillé. Il avait d'ailleurs bien reçu ses conseils pour prendre à ses côtés une équipe de personnes sûres, des anciens du peuple, en mesure de l'aider dans sa tâche pour juger un peuple qui était quand même assez important en nombre. Et on trouve cela dans Shemot 18, 13 à 26, donc livre de l'Exode. Notez ici que les hommes ou ces hommes pris parmi le peuple pour servir d'arbitre dans les différends de la vie quotidienne agissaient par délégation de Moshe, lui-même ayant reçu cette fonction de Dieu lui-même. Et donc ils avaient reçu donc ces hommes une partie de son esprit et ils agissaient finalement en réalité dans le même esprit que Moshe pour juger le peuple. On pourrait dire presque que ce soit Moshe ou que ce soit un autre qui juge, ça aboutissait à la même chose, au même résultat. Et puis par-dessus tout, les règles régissant le jugement étaient tout simplement la loi de Dieu elle-même, la Torah. Il n'y a pas dans ces circonstances, à proprement parler, de séparation du civil d'avec le religieux. Les lois civiles sont étroitement reliées à un cadre religieux. La fonction de juge, car c'est bien de cela qu'il s'agit, et pour ainsi dire, au cœur même de la paracha Shoftim. Shoftim, ça veut dire juge, au pluriel. Qui peut être choisi et comment s'exerce cette fonction au milieu du peuple, qui est donc un rôle indispensable pour gérer une société humaine? Eh bien, voilà la question posée avec tout ce qui en découle. Et c'est ce que nous allons tenter d'examiner un petit peu de près dans cette paracha ce matin. Il y a par ailleurs plusieurs considérations à relever dans notre paracha qui doivent nous amener à méditer ce sujet aujourd'hui pour nous. D'autant que il y est toujours en filigrane de tout ce qui peut être concret dans la Torah, une perspective prophétique et messianique indiscutable. Première considération, la fonction de juge au sein de la société du peuple d'Israël ne vise pas à définir qui est un tzaddik, c'est-à-dire quelqu'un de juste, ou qui ne l'est pas devant le Seigneur. C'est là la prérogative de Dieu. Le jugement ne s'exerce que, finalement, sur ce que l'homme peut juger par des faits et, comme on va le voir, par le témoignage de tierces personnes. Le jugement des cœurs appartient à Dieu et il appartient à Dieu seul. D'ailleurs, les hommes seraient bien incapables de juger ce qui est dans le cœur de l'homme. Pas révélé, c'est secret. Ainsi, la conscience et ce qui est dans le cœur ne peuvent être jugés que par Dieu seul et par aucune autre juridiction humaine. Deuxième considérant, le juge agit par délégation. La décision du juge est donc l'exécution sur la terre d'un jugement venant de Dieu, de l'Éternel. Cela peut sembler un peu étrange ou rude, et peut-être même difficile à admettre, et même certainement de nature à toutes sortes de dérives. Pensez donc à quelqu'un qui juge au nom de l'Éternel, ce n'est pas si évident que ça. D'ailleurs, ces dérives se sont produites à bien des occasions à travers l'histoire du peuple d'Israël, de juges qui ont abusé de leur position. Il est cependant indispensable que la justice divine s'exerce aussi au milieu des hommes et à travers des hommes. Et en Exode 22, versets 7 et 8, on a un litige qui est présenté à Moshé, qui est un litige un peu insoluble, parce qu'il n'y a pas de témoin. Et faute de témoin, on va jusqu'à Dieu et le juge rend compte de la décision divine pour ensuite l'appliquer. Troisième considération et dernier aspect, et non des moindres, notre paracha aborde plusieurs fonctions judiciaires qui, dans la société israélite, sont remplies par des hommes distincts. On peut cependant pressentir ou percevoir dans tout ce qui est décrit le profil du Mashiach, c'est-à-dire du Messie, qui incarne de manière parfaite et sans aucune contestation possible l'autorité judiciaire défaillante au milieu des hommes. Il est celui qui juge avec équité et qui juge et qui ira même au-delà des simples apparences. Le Mashiach juge les cœurs. Il voit ce qui est derrière les apparences. Et il sera l'arbitre des cœurs plus encore que des faits visibles. La grâce de Dieu n'est rien sans l'exercice de la justice. Et il n'y a pas de rédemption sans justice. Le pardon de Dieu ne peut exister que parce que quelqu'un d'autre a payé. C'est pas juste je passe l'éponge, je suis fini. Non. La grâce de Dieu est présente, mais elle n'existe que parce qu'il y a la justice de Dieu. L'exercice de la justice au milieu des hommes est un pâle et imparfait reflet de ce qui est la justice de Dieu dans le ciel. Et au regard de la Torah, elle semble inflexible, et la peine de mort condamne bien souvent le coupable, sans, semble-t-il, de rédemption possible. Et pourtant, le Mashiach est venu établir une justice tout aussi inflexible, car les exigences de Dieu en matière de sainteté et, je dirais, de justice sont bien supérieures, puisqu'elles concernent aussi le cœur et pas seulement les apparences. Aucun d'entre nous n'a sans doute tué quelqu'un, et peut-être qu'on a eu, une fois ou l'autre, la pensée de le faire. Dieu juge ce qui est dans nos cœurs, même si la justice humaine ne jugera que les faits. Donc le Mashiach est venu établir une justice aussi, tout aussi inflexible, mais également une rédemption qui accomplit parfaitement la loi et la justice de Dieu. Accomplir la loi, c'est accomplir la justice de Dieu. Et nous allons y revenir dans un moment. Voyons à présent notre texte, donc dans la Parasha Shoftim, Deutéronome 16, à partir du verset 18. Deutéronome 16, 18. « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. » On va s'arrêter là pour le moment. L'institution d'un pouvoir judiciaire fait partie de ce qu'on appelle les sept lois noahides, les lois de Noé. Alors, on va dire, mais où est-ce qu'on trouve les lois de Noé? Elles ne sont pas formellement rédigées en code dans la Torah, mais elles sont comme sous-entendues, et on les retrouve entre autres dans le Talmud, au chapitre Sanhedrin 56a. Maïmonide, qui est un grand penseur juif de l'époque du Moyen-Âge, 13e siècle à peu près, va codifier d'ailleurs cette loi plus tard dans son ouvrage « Des lois pour les rois ». En fait, il s'agit formellement d'une interprétation particulière, et je dirais même d'une extrapolation, du texte de Genèse 2, des versets 16 à 18, que je vais lire. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Intéressant que c'est pas Dieu qui donne des noms aux animaux, c'est l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les oiseaux, les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors on peut se demander, mais tiens, à partir de ce texte, ils ont réussi à trouver les sept lois de Noé. Waouh, ça fait fort. Et les sept lois noahides, en fait, sont issues après encore 2 ou 3 000 ans de l'histoire de Noé, qui n'est pas encore là. Dieu, cependant, ici au verset 18, non, au verset 16, pardon, Dieu donne un ordre, vayetzav en hébreu, pour ainsi dire la première règle donnée par Dieu et dont découle, pour les rabbanim tout au moins, les sept lois. L'homme ensuite, dans la gestion du jardin et la nomination des animaux, fixe d'autres règles qui ne sont pas mentionnées ici. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une extrapolation de ce premier commandement qui, d'où découle toutes ces lois. Pour beaucoup, il s'agit en fait ici, en quelque sorte, de l'embryon d'un code de loi régissant la première société humaine. Et on peut comprendre que dans toute société humaine, quelle qu'elle soit, il faut des règles pour régir les relations, les activités d'une société humaine. La première loi, toutefois, et ici, cette première loi, elle est donnée, dont dépend toutes les autres, est donné par Dieu dans ce passage ici de Genèse. Il n'est donc pas étonnant que la société israélite, à l'instar de tous les peuples, établisse une justice humaine propre à maintenir une cohésion de la société. D'où la nécessité d'établir aussi des juges pour réguler l'application de ces règles. Tout est en réalité dans la compréhension de l'expression du verset 18 de Deutéronome 16, ils jugeront le peuple avec justice. Hatzedek, tzedek. On a deux fois une sorte de répétition du même mot, l'un comme nom, l'autre comme adjectif. Une justice juste, comme si une justice pouvait être injuste, mais une justice juste. La suite du texte dans le cadre et les limites de la fonction du fonctionnaire finalement chargé d'exercer la justice, en jugeant des affaires courantes du peuple, on retrouve ici autre chose. Premièrement, le verset 19 met en garde contre la corruption possible du juge par des présents. Alors, on établit des juges, mais en même temps, on sait pertinemment qu'il y a des risques importants de les voir se corrompre. Se corrompre par des présents. À la fin du verset, sous-entend déjà, donc, cependant, deux qualités intrinsèques du juge, quand il est dit « car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes ». Le juge doit être un sage, un chacham en hébreu, et il doit être un juste en deux mots, hein, un tzaddik, selon Dieu et aux yeux des hommes. Il faut une crédibilité et au regard de Dieu et au regard des hommes. Deuxième élément intéressant sur le juge, verset 20 définit l'exercice ponctuel de la justice comme une condition au séjour du peuple dans le pays. Et ce sujet n'est donc pas un point anecdotique. Verset 20, « Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ce rappel fait en fait, en réalité, suite au chapitre 6 du Deutéronome, au verset 17 et 18, qui pose exactement les mêmes conditions. Le séjour dans le pays de Canaan, qui est attribué au peuple, eh bien, est conditionné à l'exercice de la justice, un exercice juste. Et puis, troisième élément dans le choix du juge est sa non-duplicité, sa rigueur à rester fidèle par-dessus tout à Dieu seul, en ne rendant pas de culte à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul. Verset 21, « Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. » Notez ici qu'il est fait référence au sanctuaire que le peuple édifiera bien plus tard à Jérusalem. L'ordre est toutefois plus général, et à mon sens, il fixe l'exclusivité de l'Éternel comme le Dieu d'Israël. Pas d'autres dieux à côté de l'Éternel et à côté de son autel qui lui sera édifié plus tard. Mais on va y revenir dans un moment. Poursuivons pour le moment notre texte au chapitre 17 de Deutéronome, versets 1 à 7. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, en transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. En fait, la première transgression pour laquelle les juges auront à juger concerne le rapport à Dieu. En réalité, toutes les autres transgressions découlent de cette première faute. Et le premier des combats des juges est celui contre l'idolâtrie, du moins celle qui est constatable. Il faut des témoins. Que comprendre de cette priorité un peu étrange concernant les juges dans notre contexte ou celui des premiers croyants en Yeshua à l'époque du 1er siècle? On a un curieux texte d'ailleurs à ce propos de Paul aux Corinthiens qui invite d'une manière tout aussi rigoureuse d'ailleurs à fuir à tout prix l'idolâtrie. 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, je sais bien que le texte est peut-être un peu long, mais on va quand même le lire parce que je trouve assez intéressant et surprenant de voir dans quel contexte, finalement, Paul s'adresse à des croyants pour exprimer cette même nécessité de s'écarter de l'idolâtrie, alors qu'a priori, les croyants ne sont pas dans l'idolâtrie. Mais on va lire 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Messie. Quel privilège pour le peuple dans ce contexte, d'avoir tous bénéficié de la même grâce de Dieu, finalement. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, verset 7, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité. Et ici, il faut comprendre le verset 7, se lever et se divertir signifiait bien autre chose que simplement se lever. C'était courir vers des prostituées sacrées, des choses comme ça. D'où l'expression « ne nous livrons point à l'impudicité » comme quelques-uns d'eux qui s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Et ici, il est fait référence, je dirais, à une des nombreuses chutes du peuple d'Israël dans le désert, et certainement la plus marquante, même si ce n'est pas celle qui a fait le plus de morts, mais celle qui a le plus marqué les esprits parmi le peuple d'Israël. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par des serpents. encore un autre épisode. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Là encore. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est en général un verset bien connu et encourageant. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Voilà une sorte de reprise de ce qui est dans le Deutéronome. Fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, à des chachamim peut-être. Jugez vous-même de ce que je dis. Paul appelle au bon sens de ces chrétiens de Corinthe. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Messie ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Messie ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et ici, Paul met en exergue, met en relief une pratique, ou plutôt une manière de vivre des chrétiens dans leur rapport avec des non-croyants, partageant les mêmes aliments que ceux qui sont offerts sur l'autel des idoles païennes. Non pas que la nourriture était mauvaise, mais ici, il y a plus que cela. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ça s'adresse à des chrétiens. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et ici, on peut se demander, mais ici, on est dans le concret, on est dans la vie de tous les jours, on n'est pas dans quelque chose de compliqué, on n'est pas dans une théorie fumeuse, une allégorie ou une hypothèse improbable. Non, l'apôtre Paul est dans le concret des relations humaines, de ce qui peut se produire tous les jours dans les repas et dans les rapports avec le monde. Il s'adresse à des disciples du Seigneur et non pas à des incroyants. Son exhortation est profonde, incisive. Verset 14, fuyez l'idolâtrie, il n'est pas dit, évitez si possible. Non, c'est fuyez l'idolâtrie, courez. Qu'est-ce que ça veut dire, fuir ? S'il y a un chien méchant qui vous court après, croyez-moi, vous avez d'un seul coup beaucoup de force pour fuir. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez mal à la jambe, je ne sais quoi. Non, vous courez parce que derrière, il y a un chien qui veut mordre les fesses, je ne sais pas. Fuir l'idolâtrie. Considérez que ce qui est à vos trousses peut vous faire périr. Verset 15. Jugez vous-même de ce que je dis. Un appel au discernement, donc. L'un des aspects du jugement dont nous devons tous, en la matière, devenir des maîtres. Juger n'est pas que l'affaire du juge. Nous avons à juger du monde, juger de ce qui nous entoure. Nous ne sommes pas appelés à juger, d'ailleurs ce n'est pas le même mot en grec, juger les individus et juger les choses. Nous avons à discerner le bien du mal, sans juger les hommes, sans juger notre prochain. Mais des choses, nous avons à juger. Le verset 20 doit nous amener à lutter contre la compromission, le fait d'apposer à côté du nom de l'Éternel d'autres divinités, quelles qu'en soient les formes. J'étais hier à la synagogue libérale à Strasbourg, ici, et il y avait dans l'assistance un pasteur protestant. J'ai rencontré pasteur protestant, je ne le connaissais pas. Et un des responsables de la synagogue disait « Oui, mais j'ai rencontré ce pasteur à une rencontre de dialogue interreligieux de six religions. » Je dis « Qu'est-ce qu'il pourrait bien se dire dans un dialogue entre six religions. Alors, les six religions, ça pouvait être, je pense, protestants, catholiques, orthodoxes, rajouter l'islam, le judaïsme et puis le bouddhisme, peut-être. Voilà, ça fait six. Donc, je veux dire, mais c'est quoi cette, à mon sens, pour moi, en tout cas, c'est une compromission. C'est vouloir mettre à côté du nom de l'Éternel, on se dit chrétien après, et en même temps, à côté, on met un autre nom qui est tout aussi valable, puisqu'on veut dialoguer avec, hein, sans le dénoncer. Les juges qui exercent la justice dans notre paracha sont appelés à faire en sorte que rien ne vienne corrompre l'harmonie de cette unicité relationnelle du peuple avec son Dieu. Le moindre écart d'un seul homme peut affecter tout le peuple. Et on l'avait déjà dans la conquête du pays, souvenez-vous, après la prise de Jéricho, il y en avait un des soldats qui gardait un peu quelque chose pour lui, quoi. Alors que normalement, personne, tout devait être voué à l'interdit. Et voilà que c'était Achan qui a gardé une partie du butin. Et ça a occasionné la chute du peuple dans la bataille suivante contre la ville de Haï. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un seul qui pêche, mais conséquence pour tout le peuple. Le jugement, donc la sévérité du châtiment peut sembler peut-être à certains égards excessivement forte. La peine de mort est souvent relevée dans les lois qui sont données au peuple, même si dans la pratique, dans la Torah, bien peu de peines de mort ont été appliquées de façon systématique. C'est arrivé, mais pas toujours. Souvent, il y avait des peines de compensation. Mais malgré tout, il y a là la réalité, c'est que le péché conduit à la mort. Donc, le jugement est établi sur la base de témoignages et la déposition de deux ou trois témoins. Ce principe des témoins, d'ailleurs au nombre de deux ou de trois, se retrouve systématiquement pour établir une culpabilité et prononcer un jugement. Le juge n'est donc pas à charge contre l'accusé, c'est les témoins qui le sont, et ce sont même bien souvent eux qui exécutent les premiers la sentence. Toujours dans le Deutéronome, l'exhortation première adressée au peuple d'Israël pour observer les commandements doit conduire le peuple d'Israël à être témoin lui-même de Dieu devant les peuples. Deutéronome 4, verset 6. Ce témoignage est aussi en l'occurrence, d'ailleurs, puisque le peuple d'Israël, en observant ces lois, devait être un témoignage auprès des nations qui l'entouraient. C'est un passage bien connu, Deutéronome 4, 6. Hein. Mais c'est aussi un témoignage dans l'autre sens, c'est-à-dire un témoignage qui peut être négatif, en montrant comment le peuple d'Israël s'est écarté de la voie que l'Éternel lui avait donnée. Eh bien, ça peut être aussi un témoignage inverse vis-à-vis des nations. Dans la tradition juive, les deux kérouvim, vous savez, ces anges, qui se tiennent sur ce qu'on appelle le propitiatoire ou le couvercle de l'arche de l'Alliance dans le tabernacle, sont en fait deux kérouvim qui se font face. Ils sont là pour accuser et défendre le justiciable devant Dieu. C'est ainsi que la tradition juive a interprété ce positionnement des deux kérouvim, sachant que la présence de l'Éternel était entre les deux kérouvim. Dans la Brit Hadasha, c'est dans le Nouveau Testament, les disciples reprennent le même principe des deux témoins pour régler les différends au sein même de la communauté. Dans 1 Timothée 5, verset 19, on retrouve cette idée des deux témoins pour accuser quelqu'un. On ne peut pas le faire avec un seul, il faut qu'il y ait deux témoins. On va juste lire 2 Corinthiens 13, verset 1, où Paul dit aux Corinthiens, « Je vais chez vous pour la troisième fois, et toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » Là encore, Paul reprend cette même idée. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît avec la Brit Hadasha, bien au contraire, on la retrouve présente ici. Et puis il y a aussi question de deux témoins dans Apocalypse 11, verset 4, ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Comprenez ici que ces deux témoins sont là pour accuser ou pour défendre le justiciable devant l'Éternel, devant Dieu. Ils sont également des instruments de jugement et se tiennent devant Dieu, en tout cas pour les deux témoins de l'Apocalypse. Les juges se doivent donc d'être des hommes dont le jugement est irréprochable et dont la probité est établie. Pour le judaïsme et les maîtres de la Torah, le juge choisi pour cette fonction se doit d'être exemplaire par ses paroles et par ses actes. C'est uniquement à cette condition que son jugement sera redevable. Un juge qui juge de façon négative, c'est-à-dire qui n'est pas crédible, on ne le reçoit pas. Sans revenir profondément sur l'actualité, entre un ministre qui ment et qui parce qu'il ne paye pas ses impôts, et il n'est pas crédible. Et quand on pose la question aux gens, on dit « Ah non, quand on est ministre de la République, il faut être irréprochable. » Et sur le plan fiscal, comme sur n'importe quel autre plan. Hein ? On ne peut pas séparer les choses. Le juge doit être irréprochable. Et si on découvre qu'un juge fait de la corruption et est corrompu et qu'il détourne de l'argent ou je ne sais quoi d'autre, il ne peut plus continuer à être juge. Et donc, dans le judaïsme, l'importance de cette probité pour le juge est fondamentale. Mais dans les Écritures, on retrouve plusieurs exemples singuliers de juges ou de personnes qui sont en charge d'une responsabilité judiciaire, dont le témoignage est souligné dans un sens et même malheureusement bien souvent dans l'autre aussi, dans un sens négatif. D'abord, on a la première mention un peu étrange dans Genèse 19, verset 9, où les habitants de Sodome, s'adressant à Lot, lui disent ceci. Il dit « Retire-toi », ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. » Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Lot a vu, et vu par les habitants de Sodome, comme un homme qui voulait jouer un rôle de juge au milieu de ses concitoyens. Mais visiblement, sa crédibilité est entamée par un comportement sans doute assez laxiste et peut-être même un manque de rigueur quant à sa foi ou dans ses relations. C'est pas trop. En tout cas, il ne peut jouer ce rôle de juge au milieu des habitants de Sodome. Un autre passage aussi assez probant, dans 1 Samuel 2, versets 12 et suivants. Les fils d'Élie, non pas le prophète, mais un sacrificateur. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite et dans le pot, ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Ce n'est pas écrit, mais ils étaient là pour être jugés par les sacrificateurs. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait « Mais quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Voilà des hommes corrompus qui sont pourtant en charge d'une responsabilité judiciaire étant sacrificateurs de Dieu. Et dans ce cas précis, les juges coupables devant Dieu sont des sacrificateurs. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas seulement des Lévites, ce sont des sacrificateurs. Fils d'Élie, à ce moment-là, qui était souverain sacrificateur. Les conséquences de leur faute conduira à la défaite d'Israël devant les Philistins et même la prise de l'arche de l'Alliance par ces derniers, par les Philistins, au moins pour un temps, à peu près 7-8 mois, et également par leur mort lors de la bataille, de la même manière d'ailleurs que le prophète Élie, le sacrificateur Élie, mourra le même jour. Et Samuel, qui est encore tout jeune, prendra la suite. Vous connaissez l'histoire. Autre épisode, autre mention importante, 1 Samuel 8, versets 5 à 6. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, c'est un peu plus tard, et ils vinrent auprès de Samuel, le prophète, à Rama, et lui dirent, Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Les juges sont ici les fils d'un grand prophète. Les fils du prophète Samuel sont jugés comme étant des hommes non fiables et incapables de suivre la même exemplarité que leur père. Alors c'est certainement quelque chose qui a dû être dur à entendre pour Samuel et sans doute aussi pour les fils en question, de savoir que vous n'êtes pas digne de prendre la suite de Samuel parce que vous ne suivez pas ses traces. Mais je vais revenir dans un court moment sur le rôle du roi pour juger le peuple. Objet d'une demande singulière du peuple à cet endroit, mais que l'on retrouve plutôt dans notre paracha du Deutéronome, qui a été rédigé bien avant l'histoire de Samuel. Et on va poursuivre encore notre lecture dans Deutéronome, au chapitre 17 et au verset 8. Là, on rentre dans le vif du sujet, dans des affaires concrètes. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. N'oubliez pas qu'on n'est pas encore dans le pays de Canaan. On n'est pas à Jérusalem. Le temple n'a pas encore été édifié. Mais il est dit déjà, par anticipation, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. On trouve là, et je vais répéter, je reprends tout à l'heure, quels sont les différents types de juges. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Oh. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. L'orgueil coupable dont il est question est ici comme un écho à l'attitude coupable du peuple vis-à-vis de Moshe quelque temps auparavant. On murmure, Moshe est-il vraiment celui qui doit conduire le peuple, nanana, etc. On murmure, on conteste son autorité alors que Moshe n'était quand même pas n'importe qui. Cet orgueil qui nous amène à contester l'autorité de ceux qui sont nos juges et qui devait encore être sans doute dans toutes les mémoires, en tout cas en ce qui concerne Moshe. La conséquence de cette attitude a été la condamnation à mort des coupables. On ne va pas revenir dessus, on trouve cela beaucoup dans le livre des Nombres. La démarche décrite vise à renforcer la crainte de Dieu et alors, il y a cette expression assez singulière, à extirper le mal du milieu d'Israël. À mon sens, une curieuse expression, si l'on considère que dans le fond, la racine du mal n'est pas extérieure, mais inscrite dans le fond du cœur de l'homme. Comment peut-on imaginer retirer ce mal de l'intérieur du peuple, enfin du peuple ? Ceci étant, la justice exercée sur la terre reste le seul moyen donné à l'homme pour limiter la portée du péché au milieu du peuple. La question du cœur de l'homme, finalement, sera traitée à un autre niveau par, entre guillemets, le juste qui vient et dont il est question plus tard. Identifier le juste, le tzaddik, qui vient. Alors, il y aurait sans doute d'autres exemples que nous pourrions citer, mais à ce stade, nous retiendrons dans l'Écriture plusieurs types et fonctions de juges. D'abord, ce sont des hommes, comme on l'a lu déjà au premier verset de notre paracha, des hommes de toutes les tribus et issus de toutes les villes d'Israël. Probablement des hommes d'une certaine notoriété, des anciens, des gens capables, des gens en mesure, localement tout au moins, de juger les affaires du peuple. Et c'est ce qui ressort de notre texte parachotique, au verset 18, « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. » Deuxième autre fonction qui, elle, était peut-être moins présente localement, mais qui était à différents endroits, et notamment à Jérusalem, il y a le souverain sacrificateur et surtout les Lévites. Et outre l'exemple cité plus haut des sacrificateurs qui avaient la charge et l'office du culte, bien entendu, eh bien la fonction première des Lévites est d'enseigner le peuple, de lui inculquer les lois de Dieu. Avant l'instauration du système synagogal, retour de la captivité de Babylone, eh bien, c'était les Lévites qui étaient les seuls dépositaires de cette compréhension de la Torah, de la loi, et qui étaient en charge de l'enseigner au peuple. Avec le retour de Babylone, on va instaurer, parce que le peuple sera très dispersé, des synagogues, création des synagogues, où l'enseignement se fera aussi, certes, par des Lévites, mais pas seulement, et se fera de façon beaucoup plus démocratique, si on peut dire, à l'ensemble du peuple. Ce n'est pas seulement quelques-uns qui auront accès à la Torah, mais tout le peuple. Deutéronome 33, verset 10, nous dit ceci. Il explicite d'ailleurs la fonction et la neutralité totale du Lévite pour exercer le jugement. 33, même déjà à partir du verset 8. 33, verset 8. Sur Lévi, il dit, et c'est ici la bénédiction prophétique de Moshe sur l'ensemble des 12 tribus, il dit ceci. Sur Lévi, il dit, les Toumim et les Ourim ont été confiés à l'homme saint. C'était les moyens un petit peu pour discerner la volonté de Dieu. C'était les moyens. Que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force au Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Ils sont aveugles à toute sollicitation extérieure, ils ne distinguent pas un frère d'un autre, non, ils sont là pour enseigner de façon égale à tout le monde la même loi de Dieu. Alors ensuite, les Israélites établiront une hiérarchie judiciaire avec au sommet de celle-ci ce qu'on appelle le Sanhédrin, composé de 71 sacrificateurs, dont le souverain sacrificateur. Donc, vous aviez le souverain sacrificateur plus 70 autres sacrificateurs qui étaient là pour régler les litiges les plus importants qui pouvaient survenir en Israël. C'est cette dernière instance d'ailleurs qui jugera Yeshua en son temps pour le faire condamner à mort, même s'ils n'étaient pas tous là au même moment. Mais poursuivons notre texte pour découvrir les deux dernières fonctions judiciaires qui nous semblent vraiment importantes. Deutéronome 17, verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. » On n'est pas dans le livre des Samuel, hein, on est dans Deutéronome ici. Hein. Donc on est bien avant, ils ne sont pas encore entrés dans le pays de Canaan, il n'y a pas de roi. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères et tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qui ne se détourne pas, qui ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. » Alors nous voilà peut-être quelque part interpellés par un passage qui parle de l'institution monarchique pour Israël et des conditions d'exercice de ce roi. Il y a polémique parmi les rabbins pour savoir si l'institution d'un roi provient d'une aspiration du peuple ou s'il s'agit d'une véritable ordonnance divine. La formulation reste ambiguë, c'est vrai, mais la majorité des sages d'Israël penchent pour une mitzvah, c'est-à-dire un ordre, un commandement. Ils doivent se donner un roi. Mais tous les sages d'Israël ne pensent pas exactement comme ça. Il y a, disons, une discussion, débat, et tout le monde n'est pas d'accord. Mais dans le livre de Samuel, qu'on a déjà lu tout à l'heure, dans 1 Samuel 8, verset 1-9, l'avènement d'un roi est un événement négatif, perçu en tout cas comme tel par Samuel. Et il faut cependant distinguer les conditions indiquées d'exercice de la justice par le roi dans le livre du Deutéronome et les circonstances qui entourent la nomination d'un roi dans le prophète Samuel. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Samuel a malgré tout, en dépit que ses fils n'avaient pas bonne réputation, mais avait-il vraiment le choix, il établit ses fils comme juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Bon, voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Et peut-être ici est-il fait allusion à ce qui est déjà dans le Deutéronome. Dieu explique en quoi la demande du peuple est illégitime et l'effet de leur rébellion continuelle depuis leur sortie d'Égypte. Le vrai roi d'Israël, c'est qui ? C'est l'Éternel, l'Éternel lui-même, qui est le juge d'Israël. Verset 7. Parce qu'ils servent d'autres dieux, en fait, qu'ils pratiquent l'idolâtrie, ou la compromission, un petit peu à la façon dont Paul l'énonce aux Corinthiens, ils sont jugés par la Torah elle-même. Les qualités du roi reposent sur plusieurs points. Il doit se laisser instruire par la Torah, il doit même en écrire une copie personnelle pour lui-même et la lire et la méditer tous les jours. C'est pas rien. Le roi sera un Israélite et non un étranger susceptible de détourner le peuple de la Torah et de son Dieu. Le roi ne doit pas souhaiter ramener le peuple en Égypte. Le roi ne doit pas avoir une ambition démesurée sur le plan des moyens militaires ou dans la recherche des richesses. En d'autres termes, il doit rester dans l'humilité et même dans la dépendance de Dieu à tout point de vue. Et puis enfin, le roi aura un nombre limité d'épouses. Et c'est dans ce domaine l'échec probant de Salomon et de bien d'autres. Ces épouses étrangères conduiront Salomon d'ailleurs à l'idolâtrie à la fin de sa vie. Ce qui frappe dans ce descriptif, c'est l'importance d'un cœur intègre. C'est l'importance du cœur. Et le cœur dirige le reste. Israël ne connaîtra quasiment jamais un roi vraiment intègre d'un bout à l'autre de son règne. Même David a eu quelques écarts, quelques écueils. Le texte se prolonge avec encore une catégorie supplémentaire de juges. Il s'agit du prophète, qui est aussi un juge de la manière de Samuel, ou du prophète Élie, ou de bien d'autres juges, avec plus ou moins de bonheur, qu'on retrouve dans le livre des juges, les 12 juges du livre des juges. Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays de que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. Et c'est ici un passage clé, un passage important et très central, finalement, dans notre paracha. L'Éternel, c'est Moshe qui parle, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles et qu'il dira, mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Retenez bien toutes ces paroles. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu en ton cœur, mais comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alors, si du temps de Moshé, le peuple a été rétif et a accepté avec difficulté un prophète, l'avenir montrera que les faux prophètes seront en revanche légion, et les vrais prophètes difficiles parfois à distinguer. La divination est aussi un point important condamné par Dieu et une raison majeure qui a conduit à la destruction des Cananéens, la destruction de toutes ces 7 nations qui étaient dans le pays de Canaan, est due à leur rébellion via, j'allais dire, la divination et les pratiques occultes, et l'idolâtrie, bien sûr. Si la divination, donc, nous n'avons pas le temps, formellement, là, ce matin, de revenir sur les différents épisodes plus ou moins heureux où le peuple s'est montré avisé vis-à-vis des prophètes de l'Éternel, ou au contraire s'est vu conciliant avec des faux prophètes. On en connaît pas mal d'épisodes, mais dans ce dernier passage, la venue d'un prophète est cependant annoncée par Moshé à la demande du peuple quelque temps auparavant au pied du mont Horeb. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà un passage clé. C'est à ce stade que je souhaite que nous comprenions mieux l'autre dimension du texte de notre paracha d'aujourd'hui. En effet, l'institution des juges humains parmi le peuple, les lévites ou les sacrificateurs, montre à la fois une nécessité et une limite dans l'efficacité de cette justice, car ces derniers sont sujets au péché et seront eux-mêmes des instruments tantôt positifs, mais le plus souvent négatif, il faut bien en convenir. Et c'est souvent eux qui vont éloigner le peuple de l'Éternel, de leur Dieu. L'annonce d'un prophète part comme Moshé, comme Moïse, qui doit venir et enseigner le peuple, et de l'avis de la plupart des commentateurs, une prophétie annonçant la venue du Messie. Dieu annonce de surcroît que celui qui refuse d'écouter et obéir au Mashiach aura à rendre compte directement à Dieu, ce qui est bien le cas en ce qui concerne le Mashiach. On n'a pas un homme qui dit « Ah ben, t'as pas écouté la voix du Messie, je te coupe la tête ». Non, c'est Dieu lui-même qui juge son peuple par rapport à l'accueil ou le non-accueil des paroles du Messie. Alors, certains commentaires juifs distinguent cependant trois commandements divins que Dieu communique, selon eux, dans un ordre précis et en cette circonstance. Pour les Juifs, le premier commandement, ou la première ordonnance, est de se donner un roi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ce n'est pas seulement se donner un roi, alors que le peuple n'est même pas encore entré dans le pays de Canaan, qu'il devrait se donner un roi. Ici, il y a quelque chose au-dessus et au-delà des apparences ou de la surface de ce texte. On a déjà discuté de la polémique autour de l'ordonnance ou non de désigner un roi dans le cadre de notre paracha. Tandis que dans 1 Samuel, cette volonté du peuple de se donner un roi est clairement perçue comme une aspiration négative. Le texte de 1 Samuel indique cependant que le véritable roi d'Israël, c'est l'Éternel lui-même. Ainsi donc, nous pourrions comprendre que le peuple doit en tout premier lieu adhérer à l'Éternel, son Dieu, et faire de lui son roi. L'exhortation divine est peut-être ainsi à comprendre comme une invitation personnelle à chaque Israélite de faire ou à faire de l'Éternel son roi. C'est bon, donc une demande pour tout le peuple d'avoir un roi que une invitation de l'Éternel auprès de chaque Israélite à faire de l'Éternel son roi. Vous voyez la différence ? L'Éternel doit être mon juge et il sera assurément ce juge le moment venu. L'institution monarchique permise ici dans notre paracha est probablement une présentation par anticipation des limites du roi sur la terre et le besoin de rendre visible son juge devant les autres. Mais plus qu'un juge, n'avons-nous pas besoin d'un avocat pour plaider notre rédemption, notre rachat ? Le roi d'Israël sera notre juge et quel homme pourra faire valoir quoi que ce soit devant celui à qui nous devons tous rendre compte. Notre paracha annonce par Moshé lui-même la venue d'un prophète messie, du roi juste, qui doit venir rendre justice au peuple. Zacharie 14, verset 8, en donne peut-être quelque part un aperçu lorsqu'il est dit, au verset 8, « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. » Voilà, finalement, la perspective ultime dans le royaume messianique. « En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Étienne, qui était l'un des diacres de la première communauté messianique à Jérusalem, avant de mourir, martyr, premier martyr, dans Actes 7, rappelle que les prophètes ont annoncé le juste en la personne de Yeshua. Actes 7, 52. « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. » Le tzaddik, le tzedek tzedek, le juste juge. La seconde venue du Messie sera celle d'un roi juste, toujours Zacharie, au chapitre 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Je n'ajouterai rien de plus que l'histoire de Joseph, le patriarche Joseph, qui, rejeté par ses frères, sera une seconde fois reconnu par ses frères, dans d'autres circonstances, alors que Joseph, entre-temps, sera devenu le roi, pour ainsi dire, de toute la terre, fournissant le salut pour l'Égypte et toutes les nations alentour. Il sera pour ses frères, Joseph, qui est une figure du Messie, il sera leur juge en même temps que leur rédempteur. Choisir un roi est en quelque sorte choisir son maître, son seigneur, son juge et son rédempteur. Deuxième commandement, selon les commentaires rabbiniques, le second commandement est celui de détruire totalement Amalek. On le retrouve dans la paracha précédente, mais aussi dans la paracha suivante, dans la paracha Kitetsé. Détruire totalement Amalek. Il est un thème ici récurrent dans la Torah, qui trouble beaucoup d'ailleurs souvent les lecteurs. Celui de l'ordre formel donné par Dieu lui-même, de détruire le souvenir même d'Amalek. Celui-ci était venu attaquer l'arrière-garde du peuple d'Israël au tout début de leur sortie d'Égypte. Et Dieu décrète une guerre perpétuelle entre Dieu et Amalek. Il ressort comme une évidence que cette guerre est d'une autre et d'une nature tout à fait spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'éliminer un peuple casse-pied qui venait attaquer par traîtrise le peuple d'Israël. Le peuple d'Amalek n'existe plus depuis longtemps, et pourtant, cet Amalek est un symbole puissant de l'opposition à Dieu. Saül, d'ailleurs, en son temps, va épargner Agag, le roi d'Amalek, et c'est Samuel qui lui en fera le reproche. Amalek est le symbole de la rébellion contre Dieu, de la non-foi, du doute. D'ailleurs, les rabbanim interprètent la valeur numérique du nom d'Amalek, la valeur 240. Vous savez peut-être que dans la langue hébraïque, il y a ce qu'on appelle la gématria, chaque lettre a une valeur numérique. Et donc, la valeur numérique de Amalek, c'est 240. Mais 240, c'est aussi la valeur numérique d'un autre mot en hébreu, qui est le mot afek. Afek qui signifie le doute et qui a la même valeur donc numérique en gématria. Amalek est aussi donc le symbole en quelque sorte du doute, de la compromission, de l'idolâtrie accommodée aux côtés de l'Éternel. Or Dieu ne supporte pas cette compromission, il est un Dieu jaloux. La troisième ordonnance consiste à édifier le sanctuaire de Dieu. Et on le retrouve aussi en filigrane dans cette paracha. Construire ou édifier le sanctuaire de Dieu, le temple. Le peuple ne construira en définitive le temple à Jérusalem que plusieurs centaines d'années après. L'arche et le tabernacle mobile ne sont pas pris réellement en considération ici. C'est le temple avec tout ce qu'il signifie qui est regardé et établi dans la terre de la promesse. Le temple, c'est celui qui habite, le temple qui est important. Et nous sommes souvent comparés, en tout cas dans l'Écriture, l'homme est comparé à un temple qui doit être habité de l'Esprit de l'Éternel, de l'Esprit de Dieu. Pour les rabbins, on ne peut envisager d'édifier le temple que si un roi est nommé et si Amalek est vaincu. Le temple est le lieu de la présence divine au milieu des hommes, le symbole d'une intimité, d'une porte entrouverte vers le Gan Eden, le jardin d'Éden, la félicité divine. Et c'est bien entendu le Mashiach seul qui peut amener à cette restauration d'une communion avec l'Éternel. Et c'est lui qui a ouvert la voie, il est le roi, le souverain sacrificateur, qui a accompli une parfaite rédemption en s'offrant lui-même et en présentant son propre sang pour le rachat de nos vies. Il peut donc être l'avocat qui nous défend auprès du Père, celui à qui toute créature doit rendre compte. La Torah a été transmise par les Lévites jusqu'à ce jour et les juges de ce monde, pris parmi tout le peuple, jugent tant bien que mal des faits dont ils sont témoins. Mais la justice de Dieu est plus grande et elle demande bien plus que des actes de justice selon des critères humains. Voici ce que déclare Yeshua lui-même dans Matthieu 5, dans chapitre 5, versets 17 et suivants. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas ou ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il faut l'action de Dieu lui-même pour établir une justice plus grande et plus parfaite que celle que les hommes peuvent accomplir. Et c'est Dieu seul qui rachète son peuple, et c'est lui seul qui agit dans les cœurs, selon ce que déclare le prophète Jérémie au chapitre 31, et verset 31, un passage aussi très connu. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Ah, il nous faut conclure quand même, ce matin. Nous vivons dans une société où chaque nation, chaque État a ses propres lois, d'inspiration diverse. Et ce n'est plus une morale venue d'en haut qui définit les limites de l'action humaine, mais l'expression majoritaire, en tout cas dans nos démocraties occidentales, c'est comme ça. Les courants d'influence, les lobbies mettent la pression sur le législateur pour que la loi des hommes penche dans un sens ou dans un autre. Les lois sont donc différentes d'un pays à l'autre et même peuvent changer et évoluer au fil du temps à l'intérieur d'une même nation. Enfin, je ne vous apprends rien, c'est le cas de la France comme de n'importe quel autre pays. Dans la société humaine, les problèmes peuvent non seulement venir des lois en vigueur, mais aussi de la manière dont elles sont appliquées. Les hommes ont rejeté Dieu comme roi et se sont donné d'autres chefs et maîtres qui les servent. Quels sont encore les chefs de ce monde à se laisser instruire par la parole de Dieu ? On a peut-être souvenir de quelques dirigeants de ce monde qui lisent la Bible encore de temps en temps. Bon, c'est Abraham Lincoln, mais bon, c'était il y a déjà un bon bout de temps, presque 200 ans, et d'autres encore, mais ils sont rares. Amalek est présent quasiment partout dans notre monde. Il a pénétré et influencé jusque nos lois humaines et parfois aussi nos choix personnels de vie. Nous devons faire en sorte qu'ils ne viennent pas contaminer notre vie par des balances fausses et une perversion du droit et de la justice. De plus en plus, nous devons affirmer notre droit et notre justice et nous démarquer en effaçant de notre environnement le moindre souvenir d'Amalek. Dieu nous a donné clairement des lois qui définissent ce qui est droit et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Un jour, Dieu viendra et jugera celui qu'il déclare juste et celui qu'il déclare injuste. Malheur alors au camp d'Amalek et à celui qui n'a pas l'Éternel comme roi.